Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans l'Exode 33, versets 7 à 23. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait les yeux Moïse jusqu'à ce qu'il pût entrer dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, maintenant, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et mon peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et mon peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras derrière, mais ma face ne pourra pas couvrir. » Bon, vous dites que la semaine dernière, on a vu l'épisode où le peuple avait, Moïse avait reçu la loi, l'avait donnée au peuple, et il était remonté sur la montagne. Durant ce temps-là, le peuple était descendu, avait sombré dans la plus grossière idolâtrie, un gros parti collectif. Et comme des raisons, quand l'Éternel est descendu, il a porté une série de jugements à la fois sur les leaders et à la fois sur le peuple. Et on a vu qu'il y avait un lien entre le fait de s'éloigner de Dieu, on tombe dans l'idolâtrie, on tombe dans toutes sortes de péchés inimaginables et on recueille les fruits de notre action. Autrement dit, il y a un lien direct entre s'éloigner de Dieu, sombrer dans le péché dans l'idolâtrie et recevoir des jugements de Dieu. Cette semaine, ce que j'aimerais faire, c'est le chemin inverse. On va voir que quand quelqu'un prend position pour l'Éternel, qu'il décide de se séparer du mal, qu'il donne le Seigneur comme étant le premier dans sa vie, il y a un autre lien qui s'établit et le lien est le suivant. Il va obtenir une grâce très importante, celle de la présence de Dieu. Et ça ne se termine pas là, parce qu'on va voir dans le développement du texte qu'il y a d'autres choses qui suivent la présence de Dieu, et c'est celle de grande bénédiction. Alors, voyez-vous, la semaine dernière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu comment on descendait par en bas. Cette semaine, on va voir comment on peut faire pour monter par en haut. C'est très différent. Et je pense qu'une des choses très importantes pour nous, c'est de nous montrer jusqu'à quel point, si on tombe dans le péché, on va être privé de la présence de Dieu. La présence de Dieu, l'absence de la présence de Dieu nous emmène dans le péché. Et le péché nous amène des jugements de l'Éternel, des corrections, des châtiments. Mais l'inverse est aussi vrai. Si vous faites les bons choix, vous rapprochez de Dieu, Dieu va se manifester, va manifester sa présence au milieu de nous. Et en plus de manifester sa présence, il va nous bénir de multiples façons. Moi, je trouve ça très intéressant de faire l'exercice parce que ça nous montre une chose, c'est que si on prend les bonnes décisions, on peut aller vraiment loin avec le Seigneur et recevoir des choses qu'on n'avait jamais pensé possible. J'ai divisé le texte aujourd'hui en trois idées principales. J'ai donné comme titre trois idées interactives et fécondes. Vous allez voir que dans le texte, il y a vraiment trois idées qui sont présentes. Et je voudrais vous les faire voir et vous faire voir les liens qu'il y a entre les trois idées. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement bénissant de le découvrir. Alors, la première idée, c'est la prééminence. J'ai cherché dans le dictionnaire pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la prééminence. La prééminence, c'est la supériorité absolue de ce qui est au premier rang. Placer quelque chose au-dessus. Lorsqu'un chrétien place le Seigneur au-dessus de toute chose, au-dessus de son travail, au-dessus de ses loisirs, au-dessus de son bien-être personnel, au-dessus de sa famille, il est dans le bon chemin. Le Seigneur a dit lui-même que celui qui ne faisait pas ces choses-là n'était pas digne d'être un de ses disciples. Donc, la première idée qu'on va voir dans le texte, c'est que Moïse, éventuellement, face à l'idolâtrie que le peuple avait tombé dedans, il a pris une décision importante. Il a sorti hors du camp et il a pris des positions très, très catégoriques face à l'éloignement du péché. Autrement dit, il a décidé d'emmener le peuple à la repentance. L'autre idée, c'est que quand on choisit la prééminence, on met Dieu en prééminence, ça nous amène automatiquement et irréversiblement tout le temps. Autrement dit, c'est une loi. Si vous placez Dieu en premier, il va se manifester par sa présence. Et la présence de Dieu dans nos vies est d'une importance capitale. Troisième point, c'est que non seulement il va nous emmener à manifester sa présence, mais il va nous donner des prévenances. Et encore là, on va aller dans le dictionnaire. Comment on va définir ça, une prévenance? Prévenance, ça veut dire au pluriel, qui prévient les désirs d'autrui et est plein d'attention médicale. Autrement dit, si on met Dieu en prééminence, ça va attirer sa présence, et sa présence amène toujours automatiquement une multitude de bénédictions qui sont des présences de Dieu, qui prévient les désirs d'autrui, qui prévient nos désirs, et qui est pleine d'attention délicate. On va voir que c'est dans le texte. Mais moi, ce qui est important, c'est pas juste de regarder ce que Moïse a fait, c'est de voir comment ce texte-là continue de s'appliquer à nos propres vies. Si on lit l'Ancien Testament, puis tout ce qu'on fait, c'est lire des histoires, on manque de tout. Il faut toujours regarder à l'intérieur du texte qu'est-ce que le Seigneur veut nous enseigner à nous aujourd'hui. La Bible, dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous dit qu'il nous a donné l'Ancien Testament pour deux choses. Pour nous servir d'exemple et pour notre instruction. Alors, peu importe le texte que vous allez lire dans l'Ancien Testament, il y a toujours de l'instruction pour nous, et il y a toujours des exemples que le Seigneur veut nous donner. Et ici, l'exemple qu'on va voir, c'est que lorsque Moïse fait des bonnes décisions, ça l'amène à la présence de Dieu, et la présence de Dieu lui amène des bénédictions que vous allez voir par là quand on va regarder le texte, verset par verset, jusqu'à quel point ces trois idées-là sont véritablement présentes dans le texte, et qu'il y a interaction entre les trois idées. Autant de l'interaction entre abandon de Dieu, tombe dans le péché, dans l'idolâtrie, jugement, autant que la vérité, si tu choisis Dieu en premier, il va manifester ta présence et il va te bénir d'une multitude de façons. Alors, dans la leçon précédente, nous avons constaté l'interactivité du péché. D'abord, l'abandon de Dieu et de ses commandements, puis l'idolâtrie, puis la dissolution, et enfin, le jugement. L'effet inévitable d'entraînement de l'un vers l'autre. C'est l'effet d'entraînement vers le bas.
Dans la leçon d'aujourd'hui, nous apprécierons l'interactivité du bon choix. D'abord, accorder la prééminence à Dieu, puis sa présence avec nous, et enfin, les délicates prévenances qui nous manifestera pour notre obéissance, c'est l'effet d'entraînement vers le haut. On va regarder à partir du verset 7, aller jusqu'au verset 10. On a l'idée principale qui est véhiculée dans le texte, c'est la prééminence. Le premier geste que Moïse fait pour indiquer qu'il plaçait Dieu au premier rang et qu'il lui accordait la prééminence, fut de dresser la tente hors du camp. Le camp d'Israël a été l'endroit où s'étaient manifestés des péchés d'une horreur ferrée. Quand Moïse a eu ça, il est sorti du camp. Quand Israël a 600 000 personnes avec une série de tentes, dans une ville, il a sorti sa tente à l'extérieur, il est allé faire une tente, et là, il a appelé la tente destination. Ceux qui veulent adorer Dieu vont venir ici. Il y a une image très importante par rapport à la chrétienté moderne. Si le question représente la chrétienté moderne comme étant le camp, si on veut servir Christ, il faut sortir du camp. Dans le sens, on ne peut pas avoir de la communion avec des personnes qui se prétendent chrétiennes qui continuent à vivre dans le péché. Il faut sortir. Mais là, il y a tout plein de symbolisme à l'intérieur du texte. Rappelons que le tabernacle comme tel n'était pas encore construit. Dans les leçons précédentes qu'on a vues sur le tabernacle, à partir du chapitre 25, on est rendu au chapitre 33, c'est l'Éternel qui dit à Moïse qu'est-ce qu'il devait y avoir dans le tabernacle, quels sont les objets qu'il devait y avoir là-dedans, de quelle manière ça se devait être construit, en argent, en or, en airain, et tout ce qu'on a vu au cours des semaines précédentes. Rappelons que le tabernacle, lorsque Moïse hors du camp, n'était pas encore construit. Dieu avait donné ses ordres quant à la manière de le faire, mais il n'était pas encore construit. Dieu avait seulement donné ses instructions. Nous parlons ici de la tente d'assignation, qui est le lieu de rencontre du peuple d'Israël pour le culte. Exode 33, verset 7, on a vu tantôt. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Première chose qu'on peut dire quant au geste de Moïse, c'était un geste de soumission. Moïse se soumet au verdict de Dieu. Israël est un peuple rebelle, comme ça disait dans les versets précédents, un peuple au cours raide ou au cours noir, si on prend les anciennes versions. Il accepte que l'Éternel ne montre pas au milieu du peuple par sa présence. Dans les semaines précédentes, l'Éternel avait donné comme jugement: je ne montrerai pas avec vous dans le voyage qu'on s'apprêtait à faire, parce que si je monte avec vous, je vais vous consumer. Consumer, ça veut dire que vous brûler, vous quitter la fin du match. Et c'était une grâce qu'il leur faisait. Il était sombré dans le plus grand péché, et là, l'Éternel avait dit: je ne montrerai pas avec vous. C'était un geste de soumission. Dieu avait ton jugement, Moïse avait dit: pas de problème avec ça, je me soumets. Il sort hors du cœur. Sa sortie hors du camp était pour démontrer que d'aucunement il ne s'associe avec les gestes qui avaient été commis dans l'idolâtrie collective avec le monde. Dans le verset 6, on voit aussi que c'est un acte de foi. C'est un acte de grand discernement spirituel. Il reconnaît le caractère absolument saint du Seigneur et l'état spirituel absolument pitoyable. Il y a un contraste. Il sort du cœur pour deux raisons. Parce qu'il reconnaît l'Éternel est une sainteté inimaginable, insondable. Il reconnaît en même temps, voici ce fait, et on en dit, tous les yeux sont venus péché. Il se retire. C'est quand même très important de l'administrer. C'est un acte de grâce aussi, verset 8 à 10. Le peuple fut non seulement épargné, mais lui fut donné une voix d'échappement de fuite. C'est un appel à la séparation de l'idolâtrie collective. Hébreux 13, verset 20. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché. sont brûlés hors du cœur, hors du Nouveau Testament. Et lui, il fait référence à l'Ancien, mais il dit que les choses, les sacrifices qu'on faisait à cette époque-là, étaient brûlés hors du cœur. Verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Verset 13, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant sur nos corps. Qu'est-ce que ça vient de nous enseigner? Ça vient de nous enseigner qu'il fait une comparaison avec Moïse qui est sorti du péché de son peuple et il nous invite à faire la même chose aujourd'hui. Quand on veut servir Christ, ça va nous apporter de la haine, ça va nous apporter du mépris, ça va nous apporter du rejet et il nous invite à ne pas hésiter à souffrir hors de la porte. Dans le texte que je viens de vous nommer, dans trois versets, les trois fois, hors du camp, hors de la porte, hors du camp. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner à nous, chrétiens modernes? Ça vient nous enseigner qu'on vit dans une société où 1 milliard de personnes se prétendent chrétiens, dont le catholicisme, dont différentes dénominations de bord et de l'autre. La manifestation, ce que tu es un véritable enfant de Dieu, c'est de séparation du monde. C'est d'arrêter de vivre selon le monde, c'est de commencer à vivre en conformité avec ce que les Écritures t'enseignent. C'est ça, sortir hors du camp. Sortir hors du camp, ça veut dire que tu sors de la majorité qui interprète la Bible tout proche. Par exemple, c'est pas que je veux mépriser nécessairement les catholiques, c'est juste que ils disent qu'ils ont la foi en Jésus-Christ, mais regardez-y! Est-ce qu'ils manifestent une foi véritable au Seigneur? Est-ce qu'ils manifestent une obéissance à la Bible? Est-ce que le Seigneur leur enseigne? Est-ce que le Seigneur leur demande? Est-ce que le Seigneur leur exige? Ben, je pense que non. Sortir hors du camp, c'est de ne pas agir comme eux. Si tu agis comme eux, tu démontres probablement que tu n'es pas pour régénérer, tu n'es pas né nouveau. Si vous remarquez dans le verset 8, c'est un geste que Moïse fait, mais qui n'est pas imité par la majorité. Verset 8, lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait, remarquez l'endroit où il se tenait, à l'entrée de sa tente. Il suivait les yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Voyez-vous la différence? C'est que, OK, ils ont vu Moïse qui sortait hors du camp, mais eux, ils faisaient juste suivre les yeux. Là, il y a autrement dit que les yeux approuvaient, mais ils ne pouvaient pas faire leur geste. Moïse avait dit, pour sortir du camp, vous allez à l'attente. Le mieux que c'est l'attente. Pas devant l'attente à celui des yeux. Mais oui, il y a plein de leçons spirituelles pour nous aujourd'hui maintenant. Verset 9. Le geste de Moïse est béni par la présence visible de Dieu. Exode 33, verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans l'attente, la colonne de nuée descendait. Il s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Voyez-vous, le fait qu'il était sorti, ça démontrait que Dieu était intéressé à parler à Moïse et à ceux qui imiteraient son fils. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, la colonne de nuée était le symbole visible de la présence de Dieu. Et vous, on commence à faire des liens, le bon choix et la présence de Dieu. La colonne de nuée servait à trois choses que les Écritures nous enseignent dans l'Ancien Testament. Elle servait d'abord pour guider et pour éclairer. Dans tout leur voyage dans le désert, on nous apprend que d'un jour, il y avait une colonne de nuée qui marchait devant le peuple, et durant la nuit, il y avait une colonne de flammes qui marchait en arrière du peuple. Alors, toutes ces choses-là, c'était pour guider le peuple. Exode 13, verset 21, excusez-moi. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Première fonction de la colonne, c'était pour guider et éclairer. Deuxième fonction de la colonne, c'était pour protéger le peuple. Exode 14, verset 19 et 20. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, parti et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Ce cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Qu'est-ce que ça avait pour fonction quand le peuple est sorti d'Égypte? Dieu, quand il a décidé de traverser le peuple dans la mer Rouge, il est rouge placé de façon à ce que ça devienne ténèbre d'un côté pour les Égyptiens, que ça devienne lumière pour son propre peuple. Donc, ça avait pour but de protéger le peuple contre les attaques des Égyptiens qui auraient pu vouloir empêcher le peuple de traverser la mer Rouge. Et la troisième chose que ça avait pour fonction, c'était de communier, Exode 33, verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de lumière descendait, il s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Quand on fait le lien dans le verset 10, ça dit tout le peuple voyait la colonne de lumière qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait. Il faut arrêter, étudier le texte, réfléchir un peu au sens des mots. Sans ça, on manque le message qu'il est en train de nous dire, en train de dire. Voyez la colonne de Dieu, voyez la présence de Dieu, qui s'arrêtait à l'entrée de la tente de destination, que Moïse avait dit, alors, en l'histoire du Vatican. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de Satan. Le peuple n'a pas suivi Moïse qui s'en allait en dehors du camp. C'est l'image de ceux qui, aujourd'hui, dit dans une société qu'on dit chrétienne, mais que pas grand-chose dans leur vie manifeste l'authenticité. La tente est souvent utilisée dans les Écritures comme symbole de notre corps et de son pèlerinage. Donc, Paul parle de libérer de la tente parle de son corps, comme si son corps lui-même était une tente et son âme était à l'intérieur de la tente. Dans le Nouveau Testament, si vous avez déjà vu dans le Testament complet, vous avez sûrement déjà remarqué ça quand il parle de son corps comme telle tente. Maintenant, on va regarder la deuxième. Je pense qu'on a vu très clairement que dans ces passages-là, c'est-à-dire, on parle de la prééminence de Dieu. Moïse a décidé d'honorer le Seigneur, de vouloir suivre le Seigneur, d'inviter le peuple à suivre le Seigneur. Maintenant, il y a quelque chose qu'on va voir dans les versets 11 à 17. Et que Dieu va manifester puissamment sa présence. Et ça, c'est une importance capitale à comprendre. Lorsque le peuple de Dieu se sépare de la rébellion, de l'idolâtrie collective, Dieu manifeste sa présence. Bien entendu, cela se produit lorsque le péché a été confessé et que la pardon du péché manifeste l'authenticité de la repentance. On lit, par exemple, dans le Proverbe, chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse, voyez-vous, pour eux, c'est de confesser. Parce que tu peux confesser ton péché, ton curé, ce que tu veux, mais si tu ne le délaisses pas, c'est un signe de peut-être que tu portes le nom de Dieu, tu n'es pas chrétien. Je ne sais pas si vous avez déjà été frappé par les déclarations que le Seigneur fait dans Matthieu 7, quand il dit « Ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, c'est ceux qui écoutent sa parole, c'est ceux qui obéissent à ce qu'il dit. » Dans ça, il dit « Vous n'êtes pas des vrais. » Première chose que ça révèle, c'est la présence qui est révélée. La présence révélée, c'est que Dieu est ici ce matin. Quand on va au jeu, on ne se rend pas toujours nécessairement, on ne prend pas toujours pleinement conscience de ça. Dieu est ici ce matin, il est toujours présent, tout partout ce qu'on est. Mais il est encore plus présent dans l'assemblée quand on est en train de faire l'adoration pour le Seigneur. Alors, la présence révélée, c'est si Dieu permettait d'une façon ou d'une autre ce matin que ça ne soit pas simplement une présence soit intellectuel, on sait qu'il est là, on ne le voit pas. Nous, on aurait des gestes. Ce qu'on ne voit pas, ça n'existe pas. Dieu nous dit, oui, je suis présent au milieu de vous. Il est présent. Et là, il démontrait dans le verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face. C'est-tu une manifestation de sa présence? Non, non.
face à face.
Il n'y a pas eu de grands chrétiens ou grands hommes de Dieu qui ont eu le privilège de parler avec le Seigneur en personne, face à face. Ça, ça dit ici. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, qui était l'homme, ne sortait pas du milieu de la terre. C'est ici la plus glorieuse et la plus bénie révélation divine que Moïse ait jamais reçue. C'est le privilège insondable. Nombre 12, versets 7 et 8. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi n'avez-vous donc pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Tout intéressant, c'est que ça nous dit que Moïse, que Josué ne lui sortait pas de la terre. Moïse allait à la terre d'assignation puis il retournait dans le camp. Mais Josué dit que lui, il ne l'a pas. Alors le fait que Josué, le serviteur de Moïse, ne quitte pas la terre d'assignation est une leçon pour tous ceux qui occupent un poste de leadership dans le service divin. Cela démontre l'importance de l'adoration personnelle dans un service fécond et futur. Moïse pouvait se permettre, il était tellement proche de Dieu, il parlait tellement souvent avec Dieu, il avait un privilège extraordinaire, il pouvait se permettre de sortir de la tente et d'aller, je ne peux pas plaider que le peuple qui l'imite, mais Josué, lui, avait tellement soif de Dieu. Il voulait demeurer dans la tente. Il voulait recevoir le privilège, la grâce que Moïse avait mis. Alors, il y a une notion pour nous, parce que Josué est un leader spirituel, c'est lui qui a fait sortir le peuple d'Égypte. Pas en partie, pour que l'Égypte ait rentré dans la terre promise, commence à conquérir la terre promise. Si Josué décidait de rester dans la terre promise, il n'était pas pour se fortifier. Il n'était pas pour communier avec Dieu. Il n'était pas pour apprendre à mieux connaître le Seigneur. Il était un leader. Il passait beaucoup de temps avec le Seigneur, dans sa présence, le plus possible. Le but de ça, c'est de rapprocher le leader de Dieu de manière à ce que le leader soit capable d'amener le peuple à se rapprocher de lui aussi. Verset 12, on voit que c'est une présence qui est gracieuse. Dans le sens que Dieu manifeste la grâce à l'intérieur de ça. Les autres rapports, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais pour ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Pourquoi il se révélait à lui d'une telle intensité? Parce qu'il avait trouvé grâce à mes yeux. Comme nous, les élus aujourd'hui, nous avons trouvé grâce auprès de Dieu et nous avons accès au trône de grâce avec la même facilité que Moïse avait à travers la femme de Sinaï. C'est toujours qu'on voit pas souvent conscient qu'on devait. Ici, Moïse rappelle à l'Éternel sa parole et le fait qu'il soit un Dieu souverain et plein de grâce. Dans le verset 13, on voit que cette présence-là est reliée à l'alliance. Exode 13, 33, verset 13, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et vous, il sait trouver grâce à tes yeux, il dit à l'Éternel, blesse, la pleineur, c'est même pas notre Moïse ici. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, il avait trouvé grâce à Seigneur, blesse, lui dit, mais oui, il sent de ça comme un argument pour obtenir davantage. Il dit, fais-moi connaître tes voies. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il a obtenu grâce, mais il veut d'autres grâces. C'est parce que nous, on devrait faire aussi. On a obtenu grâce, mais on en veut d'autres grâces qu'on en a trouvé. Et gardez bien comment tu procèdes. Très habile. Considère que cette nation est ton peuple. Avez-vous remarqué la semaine dernière dans la leçon comment Moïse et Dieu interchangeaient le terme ton peuple? Dieu disait à Moïse, c'est ton peuple. Moïse disait à Dieu, c'est ton peuple. Comme si Dieu voulait dire, tu peux pas tellement tomber dans le péché dans la maladie, c'est ton peuple. C'est le peuple de Moïse, c'est le peuple de l'être. C'est le peuple de l'être, du médiateur. Quand on fait l'image, la parallèle entre le médiateur, Moïse qui est le médiateur et Christ qui est le médiateur, C'est comme si Dieu avait dit, non, c'est le peuple du médiateur. Le médiateur, non, c'est ton peuple. Il y a eu ce mouvement-là, très intéressant à étudier dans les Écritures. Moïse prête auprès de l'Éternel pour obtenir de connaître ses voies. N'est-ce pas un rappel que nous ne sommes pas capables de le faire nous-mêmes, mais que seulement Dieu peut le faire, connaître une vie. C'est seulement lorsqu'il répond que nous pouvons mieux le connaître, le dit dans le texte, alors que nous prenons des sorties de l'évidence pour nous connaître davantage. Moïse continue son habile plaidoyer pour que l'Éternel reconnaisse que la nation est son peuple. Et où la guerre continue, son peuple. Il dit, puis Moïse dit, tiens, que l'Éternel reconnaisse le peuple d'Israël, c'est son peuple. Parce que vous allez voir, il va chercher à en obtenir davantage. Jean 17, verset 9, dans le cœur de la prière, à Saint-Denis. Le Seigneur lui-même dit, c'est pour eux que je prie, en parlant des élus, en parlant des personnes régénérées, en parlant des personnes qui font partie de son peuple, de l'Église, de l'Église. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ils sont à toi. Le médiateur, Christ, plaît pour le peuple de Dieu. Verset 14, on voit aussi une autre caractéristique de cette présence-là, que c'est une présence personnelle. Les autres grands points, verset 14. Remarquez bien le mouvement qu'il va y avoir dans les prochains versets. C'est extrêmement important de le saisir. L'Éternel répondit, je marcherai. Est-ce qu'il dit avec le peuple? Il dit, je marcherai moi-même avec toi. Il parle du médiateur, il parle de Moïse, sa personne. Donc, sa présence devient une présence personnelle qui est basée sur le fait qu'il habite les bons choix. Il ne lui dit pas ici, je serai avec le peuple. Il dit, je marcherai moi-même, Dieu lui-même, avec toi. Il a dit, oh, Moïse, il n'y a rien à la charge. Il dit, et je te donnerai du repos. L'Éternel m'a inscrit une emphase sur l'énormité du péché d'Israël et sur sa sainteté absolue. Pas le peuple d'Israël, c'est pas peut-être celui à lui. Il rappelle à Moïse qu'il est personnellement digne de se voir accorder la requête que Dieu marche avec lui et de lui donner du repos. La réponse semble écarter la volonté de le faire avec le peuple collectif. Vous allez voir toute la guerre de nous qu'elle a fait, c'est vraiment toute beauté de voir comment le médiateur agit, parle avec Dieu dans le but d'obtenir quelque chose d'extrême importance. Alors ici, Dieu lui dit, avec toi, Moïse, à cause de tes choix, à cause que tu m'as mis en pénitence, je vais marcher avec toi et je vais te donner du repos. Il dit quoi pour le peuple? Il dit, Moïse continue. Verset 15. Les autres 33, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, pas avec moi, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partie d'ici. Il était pleinement conscient qu'une marche dans le désert, sans la présence du Seigneur qui les éclairait, qui les guiderait, qui les protégerait, c'était extrêmement dangereux. Et il plaide comme médiateur pour tenir encore davantage de la grâce. Il y en avait un autre, il y en avait un autre. Verset Moïse aide le peuple et plaide vigoureusement pour obtenir la grâce de la marche de Dieu avec Israël collectivement. Il voit les insurmontables difficultés qu'ils auront collectivement à rencontrer si Dieu ne marche avec eux. Il préfère même ne pas entreprendre le voyage sans l'obtention de cette grande grâce. Si tu ne viens pas avec nous, alors Moïse cherche à faire basculer la grâce de Dieu du avec toi vers le avec nous. Voyez-vous? Individuel, mais le choix de l'individu qui plaide comme du monde avec l'Éternel peut amener des bénédictions sur la collectivité. On a-t-il des images qu'on a peut-être par rapport à nous là-dessus aujourd'hui? Un individu qui plaide devant Dieu, court consciemment pour obtenir des grâces pour le peuple, S'il marche lui-même devant Dieu, s'il fait des gestes de prééminence, Dieu non seulement va manifester sa présence à lui individuellement, mais il peut étendre sa grâce à tout le peuple. Si on comprenait la force de la prière, de l'intercession en faveur du peuple, nous garantissons que Dieu. La présence identitaire, verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce? Voyez-vous, continue ça à dévoiler. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Et après ça, il dit, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Il est en train de dire, tu voulais me l'accorder personnellement, mais moi, tu m'étends à la collectivité. Et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la terre. La manière dont les nations vont reconnaître que tu es présent, que tu marches avec nous, ça va être ta présence collective, pas ta présence individuelle. Les nations, comment elles vont faire pour reconnaître ta présence? Moi, j'ai convaincu que seule cette marche avec tout le peuple amènera cette marque de distinction sociale et spirituelle. Dans le verset 17, on voit une autre caractéristique de la présence, c'est la présence victorieuse. Exode 33, verset 17, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais pour ton nom. » Voyez-vous, la plaidoirie à l'homme. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes. » Moïse, par sa plaidoirie intelligente, par sa prière, par son intercession, fait basculer la présence de l'Éternel qui marcherait avec lui individuellement à la présence qui marcherait avec la collectivité, le peuple de Saint. Nous constatons ici la victoire finale de la fervente plaidoirie de l'intercession de Moïse. Il obtient la présence de Dieu avec la collectivité d'Israël. Dieu lui accorde sa présence pour le présent et le repos pour le futur. C'est un passage merveilleux qui illustre le caractère infiniment généreux et gracieux de notre Dieu. C'est une grâce pure. Une grâce, en définition, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Non seulement qu'on ne mérite pas, mais qu'on mériterait. Et ici, Moïse reconnaît que c'est une grâce pure, souveraine. Dieu peut être Dieu comme il est assis sur son trône, la loi de faire ce qu'il veut. Il avait décidé de donner sa présence à un individu. Moïse a plaidé, il a dit je donne à tout le peuple. C'est une grâce que l'Éternel, sur son trône, pouvait accorder. C'est une grâce aussi qui est extrêmement généreuse, patiente, surabondante, sainte. Matthieu 28, verset 20. Le Seigneur dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Éternel manifeste sa présence, même si Christ est parti, l'ascension de notre ciel. Il nous dit que sur la terre, nous, ses enfants, il va toujours être avec nous, une semaine, deux semaines, quinze jours, il est parti, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La présence de Christ. Ésaïe 41, verset 10, ne crains point, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le passage nous enseigne la force incroyable de l'intercession individuelle de Dieu. Où puissions-nous en prendre pleinement conscience et agir? Troisième point qu'on va regarder, c'est l'effet de l'ange, verset 18 à 23. Il est impératif que nous saisissions les liens entre la séparation du mal, la présence de Dieu et la miséricorde que cela va nous amener. Il y a un rouage interactif, une chose amène l'autre. Le rouage interactif fonctionne toujours. La repentance de l'idolâtrie et du péché attire invariablement la présence divine, puis d'innombrables bénéfices. Ce sont les présences de Dieu. Regardez bien la présence de Dieu, comment elle s'exprime à partir du verset 18. Moïse va faire une requête d'une audace inimaginable. Il dit, Exode 33, verset 18, Moïse dit à Dieu, voyez-vous la force de l'intercession qui vient d'obtenir la bénédiction au lieu d'individuel et collectif, mais il n'arrive pas. Grâce, il demande à Dieu une chose d'une grandeur insondable. Si on pèserait, qu'est-ce que ça veut dire, forcément? Il demande une chose terrible. Il dit, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est la manifestation simultanée de chacun de ses attributs. On a pris les leçons avant, donc, tout le monde dit, bonté, sagesse, intelligence, nominée, miséricorde, grâce, etc. Et chacun de ces attributs-là, c'est comme un rayon de la gloire de Dieu. Et chacun de ces rayons-là, c'est infini. Alors, il demandait une affaire d'une grandeur qu'il ne soupçonnait probablement pas lui-même. Mais voyez-vous l'audace de sa demande, il a tenu grâce, il a vaincu, il a plaidé l'Éternel, il a obtenu la chose de l'Éternel. Et là, il lâche pas. Il dit, fais-moi voir ta gloire. Il demandait une chose extraordinaire. Oser demander à Dieu de lui faire voir sa gloire est très audacieuse. L'obtention d'une grande grâce nous attire toujours vers la volonté dans notre vie davantage. La gloire de Dieu est la manifestation simultanée de l'infini et insondable grandeur de tous les attributs divins. L'éternité ne suffira pas pour nous faire découvrir tout le merveilleux de la personne de Dieu, car toutes ces choses sont infinies et limitées. Il demande à peu près, pas à peu près actuellement conscient de ce qu'il dit. Il voulait voir quelque chose de Dieu, il voulait avoir une révélation de Dieu encore plus avancée, plus profonde. Mais Dieu dit que voir sa gloire pour un être humain, c'est impossible. Du moins dans sa totalité, dans son côté absolu. On n'est pas bâti pour être capable de voir. Je sais rien, si ça nous était donné, on aurait pu. Et regardez la réponse d'une infinie bonté. Verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, il n'a pas dit toute ma gloire, il a dit toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce, et je fais grâce, et miséricorde, et je fais miséricorde. Dans Exode 34, verset 4 à 7, le Seigneur lui-même nous donne une définition un peu de ce que c'est la bonté de Dieu. Moïse travailla deux tables de pierre, comme les premières. Il se leva le bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui, et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour l'innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. La bonté de Dieu, c'est la somme de ses excellences personnelles. D'abord, c'est son nom. Il dit, je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Ceux qui ont été présents aux leçons d'avant, quand on a vu les leçons sur les noms de Dieu. Les noms de Dieu, il y en a différents noms de Dieu. Par exemple, El Shaddai, ça veut dire le Dieu tout suffisant. et c'est plein d'autres noms comme ça. Dans les noms de Dieu, il y a une facette du caractère de Dieu qui est définie, qui est démontrée. Alors, c'est quand l'Éternel crie son nom, c'est qu'il est en train de démontrer les différentes facettes de son caractère et de sa personne. Et aussi, il vient dire, dans la réponse qu'il donne à Moïse, qu'il est souverain. Il dit, je ferai grâce à qui je ferai grâce. On a dit, c'est moi. Il la donne à qui il veut. Il dit, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Et aussi, c'est sa miséricorde, parce qu'il utilise le mot compassion. On sait tous ce que c'est la compassion. Si on était réduit à la rue, par exemple, quelqu'un qui a compassion de nous, c'est quelqu'un qui verrait qu'on est malade, quelque chose comme ça, qui nous donnerait le faire, nous nourrirait, nous habillerait. La compassion, c'est que tu vois la misère de l'autre et tu cherches à la soulager. Sa miséricorde, c'est sa provision merveilleuse pour rencontrer et satisfaire les besoins désespérés d'un peuple qui a failli de répondre adéquatement à sa grâce. C'est pour ceux qui ont péché contre sa grâce. Ici, je veux faire la distinction entre deux mots des Écritures. Les Écritures utilisent le mot grâce et les Écritures utilisent aussi le mot miséricorde. Quelle est la différence entre les deux? La grâce a pour arrière-plan notre vide, notre pauvreté, notre indigence. L'indigence, c'est encore plus que la pauvreté. Un pauvre, il y a encore des choses. Mais un indigent, il n'y a rien. Rien du tout. Alors, c'est notre incapacité absolue, ce que les Anglais appellent « worthlessness », ça veut dire qu'on est pauvre. À cause, on ne vaut rien spirituellement, à cause de ça, l'Éternel décide d'accorder sa grâce et notre faillite totale. Ça, c'est la grâce. La miséricorde, à comme arrière-plan, notre méchanceté et notre vilenie, notre corruption, que les Anglais appellent wickedness, vileness, sinfulness. J'aime bien l'expression sinful. Sinfulness en anglais, sin, c'est péché, full, c'est plein, ness, c'est que le Seigneur nous voit comme étant plein de péché jusqu'au rebord. Et c'est à cause de notre de condition que même après qu'on est sauvé, on continue de pécher. Et c'est là que la grâce de Dieu s'exerce, c'est sa miséricorde. Plus sa miséricorde que sa grâce. La miséricorde, c'est notre dernière ressource comme pécheurs régénérés. Elle n'est pas un droit. Nous pouvons l'obtenir à cause de Christ et par Christ. Hébreux 4, 16. Ça, c'est un verset que j'ai pour vous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir, voyez-vous le mot choisi, miséricorde, et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. L'Éternel nous dit, et ayez pas peur de vous approcher du trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est là où le Seigneur est assis et il peut disposer à sa guise s'il accorde quelque chose ou s'il n'accorde pas. Mais ça ne nous dit pas entrer avec crainte et tremblement. Ça nous dit entrer avec assurance. Si vous êtes véritablement des enfants de Dieu, vous pouvez vous présenter auprès du Seigneur pour obtenir sa miséricorde. Sa miséricorde, il sait qu'on est pécheurs. Il sait qu'on est faible. Il sait qu'on tombe à tout moment. Il sait qu'on est plein de bonnes intentions, mais qu'on chute souvent. La miséricorde, c'est reconnaître qu'on a des besoins et d'aller les chercher auprès de celui qui peut les combler. Dieu lui-même. On peut s'assurer, entrer dans sa présence et demander avec assurance, « Seigneur, j'ai tellement de la misère, j'ai tellement de la femme. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Pourquoi tu n'arrives pas tout seul. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. » C'est ça. Et le Seigneur, quand il voit qu'on reconnaît nos besoins, il peut décider de l'accorder. Non, mais je pense que quand c'est fait avec le plus profond de ton cœur, il peut l'accorder. Et dans le verset 20, on a la requête qui est impossible à exaucer de façon complète. Exode 33, verset 20, l'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'intimité profonde avec notre Dieu trois fois saint est impossible, du moins dans son côté absolu. Le pécheur, même régénéré, ne peut accéder à ce privilège d'une indescriptible bienvenue pour ton âme. 1 Timothée, chapitre 6, verset 15 à 16. Que manifestera en son temps le bienheureux des saints souverains, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient le nom de la puissance. Ce que Moïse demandait, Dieu ne lui accorde pas pleinement, mais il lui accorde en partie. Voyez-vous, la requête est impossible à exaucer pleinement, mais impossible à exaucer partiellement. La requête possible à exaucer par le médiateur et relativement, verset 21 et 23, Exode 33, verset 21 et 23, l'Éternel lui dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. » Dans les Saintes Écritures, à qui Christ? Quelle est l'image qu'on utilise souvent pour parler de la personne de Christ? Le roc, le rocher. Et où? Il dit, l'Éternel, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand la gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je passe. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Voyez-vous, l'Éternel encore accorde grâce sur grâce. On peut donner une grâce à Moïse. Il ne peut pas lui donner complètement parce qu'il mourrait. Mais il lui accorde quand même. Il dit, je vais mettre ma main, va passer. Mais le rocher, je ne sais pas si vous connaissez le célèbre cantique anglophone d'Augustus Toplady, In the Cleft of the Rock. Moi, c'est un chant que j'aime tellement, c'est tellement imagé. Je vais vous dire un anglais pour vous traduire là-dessus. Dans les mots du cantique, ça dit Rock of ages, clap for me, let me have a must of the day. Ça veut dire Rock des âges. Il parle de Christ. Il dit clap for me, creux dans le rocher pour moi. Christ est le rocher, est le creux dans lequel nous nous plaçons en toute sécurité. Let me hide myself in thee. Laisse-moi me cacher en toi. N'est-ce pas ce que le chrétien fait quand il dit, alors, c'est le pardon de ses péchés, c'est celui qui ne pourra pas se repentir suffisamment. C'est Christ qui a subi le châtiment que nous aurions subi en enfer à la place. Et non seulement il a fait ça, mais il a fait aussi l'accomplissement de la loi, du décalogue, des 10 commandements que l'Éternel exigeait que tout être humain accomplisse à la perfection. Ne jamais avoir menti contre quelque commandement que ce soit, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission, ni en péché secret. Le seul qui a accompli ça, l'exécution, l'accomplissement de la loi, la perfection, c'est Christ. Et il l'a accompli substitutivement. Ça veut dire qu'il l'a fait à notre place. Il a subi le châtiment à notre place et il a accompli les exigences que Dieu avait envers chacun de nous pour vivre en sa présence. Il l'a accompli encore une fois à notre place. La substitution. Le salut en deux mots. Pris la position de place, accompli les exigences de Dieu. On peut se reposer dans le creux du rocher. C'est quelle beauté qu'on connaît ce chant-là, et puis on l'a entendu, puis que vous pesez vos mots, puis que vous compreniez ce que vous dites, ça vous emmène au bon de l'âme. Parce que vous comprenez très bien que si vous êtes heureux, c'est pas par vous, mais il est important. Et l'Éternel, quand même, permet de voir, il met sa main dans le creux du rocher, comme on dit, comme une façon de dire, on est protégé dans le creux du rocher. Mais tu vas voir seulement derrière, ça veut dire quoi? Tu vas voir certaines manifestations de la gloire. Mais pas complètement. Puis le fait de le voir par derrière, il dit, par devant, si tu le verrais, tu mourrais. Nul homme ne peut me voir et rester vivant. Mais tu peux quand même pas faire quelque chose. Tu vas voir par derrière. Donc l'Éternel permet qu'il se révèle encore plus complètement en Moïse, mais dans les limites de sa condition d'homme. Notre vision de ce côté sera toujours extrêmement bénissante. Il dit, tu me verras par ta vie. Cependant, elle sera toujours limitée tant que nous serons sur cette terre. Quelles sont les applications qu'on peut faire? Une application, c'est à partir de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Quelle sorte de choses ça va changer dans ma vie? À partir de tout de suite. Pas devenir, je pense, la semaine prochaine. Je n'ai pas le temps cette semaine, je vais être occupé. À partir de tout de suite, vous avez entendu, vous êtes responsable. Sûr de ce que vous avez entendu, vous êtes censé prendre la parole de Dieu et appliquer quelque chose de ce que Dieu nous enseigne. Moi, je pense qu'elle nous enseigne plusieurs choses. J'en ai sorti trois, il y en a probablement plus que tout le monde, mais je suis sorti. Tenons-nous fermement hors du camp. Séparons-nous de l'apostasie et de l'idolâtrie collective de la chrétienté infidèle incarnée dans l'écuménisme non-biblique. Dans le fond, sortir hors du camp, c'est de ne pas faire comme la religion. C'est de savoir qu'est-ce que les exigences du Seigneur, c'est de vouloir vivre selon ce qu'il nous enseigne et ne pas avoir peur d'être méprisé, parce que ça dit dans les heureux, de porter son opprobre. L'opprobre, c'est pas intéressant. On se fait haïr, on se fait accuser, on se fait rejeter, on se fait toutes sortes de choses, et comme chrétien, on ne sera jamais applaudi par le monde. Comme le Seigneur l'a dit, ils vont vous traiter de la même manière qu'ils vont traiter. Alors, sortir hors du camp, ça veut dire ne pas avoir peur d'appliquer les enseignements de la Bible. Deuxièmement, si on fait le bon choix de placer le Seigneur en préminence, de le placer au premier rang dans tout ce que nous faisons, qu'il soit au-dessus de notre famille, au-dessus de notre épouse, au-dessus de nos loisirs, au-dessus de notre travail, au-dessus de quoi que ce soit, il est le premier, il doit être le premier. Si nous le plaçons le premier, d'après ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui va arriver? Sa présence va se manifester à nous. Et les Écritures nous disent qu'on peut même plaider pour que le Seigneur accorde cette grâce au peuple. Il n'a rien d'autre que l'Israël, mon père. Pourquoi ne le ferait-il pas en même temps? 2 Corinthiens 6, verset 16 à 18. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Troisième leçon. Dieu nous bénira et nous manifestera sa miséricorde en nous faisant partager son intimité et en se révélant richement à nous. Si on fait le bref résumé très rapide, prégnance amène présence, présence amène dévenance. Si un lien si on comprend, il y a des choses pour changer. Qu'il soit loué pour sa grâce surabondante et sa présence inlassable avec nous. Malgré nos infidélités et nos faiblesses. Amen. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, on te remercie de nous avoir fait comprendre les liens sur un petit texte qui avait rapport avec le peuple d'Israël, mais qui sont pleins de leçons pour notre propre vie. Fais-nous comprendre, Seigneur, et accepter et pratiquer le fait que tu sois le premier dans toutes choses, en tout temps pour nous. Et tu nous dis dans ta parole, tu nous enseignes dans les instructions qui sont tirées de ce texte. Et si nous faisons ces choses, tu manifesteras ta présence parmi nous. Et tu nous combleras de bénédictions. N'est-ce pas que comme être régénéré, ça devrait être notre désir le plus cher. Nous te demandons, Seigneur, de nous faire comprendre non seulement les liens qu'il y a entre ces trois idées, mais de les mettre en pratique dans nos vies tous les jours pour t'apporter ton avis. Nous te demandons pour Jésus, le Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.